Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC débrief le Grand Prix d'Azerbaïdjan, 17e manche de la saison. Et ça a été un Grand Prix, un week-end super excitant. On a vécu une séance de qualif de dingue. On a encore vécu une victoire de Max Verstappen pour la deuxième fois d'affilée. Et donc forcément, on se pose la question. Mais s'il y en a un qui peut peut-être le faire, qui peut tout bouleverser en cette fin de saison, est-ce que ce serait pas Mad Max ? On va poser la question à nos ingénieurs. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. McLaren a raté son week-end peut-être pour la première fois depuis le début de saison. Il y a eu un podium incroyable d'une écurie qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, avec un pilote qui était en difficulté depuis le début de saison. Bref, je vous garde un petit peu de suspense pour le début du podcast. On accueille les ingénieurs pour ce débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le team principal du paddock est là, Jean-Luc Roy from Miami. Salut mon Jean-Luc.
Oui, salut mon Nico, bonjour à tous.
À tes côtés, Arnaud Valadon, Louis Gerbier, salut les ingénieurs.
Salut à tous.
Hello tout le monde.
Hello young guns. On s'est vraiment régalé sur ce week-end à Bakou. C'est toujours un week-end sympa à Bakou, on le disait dans le warm-up.
Et
on
c'est a jamais low cost été... à Bakou.
Excellent. Si on commence comme ça au bout d'une minute 30, ça va être dramatique. Ça va être dramatique ce podcast. Tiens, bah, je vous rappelle d'ailleurs que si vous aimez les très mauvais jeux de mots d'Arnaud Valadon, vous vous abonnez au paddock RMC. Vous n'hésitez pas à relayer le podcast, également à le partager et à nous noter sur les plateformes de téléchargement. C'est très important pour le podcast. Et puis, quand les plateformes. On va demander aux ingénieurs de noter ce Grand Prix à Bakou sur 5 étoiles. Jean-Luc, je commence avec toi. On lui donne combien ce week-end azerbaïdjanais ?
Ah bah écoute, mon Nico, alors tu l'as bien précisé, hein. On va pas le redire à chaque fois, c'est le week-end complet avec une qualif complètement folle et pour moi un Grand Prix plein d'espoir. Allez, je vais pousser jusqu'à 4,5.
Ah, ça j'aime, Louis Arnaud.
Ah oui.
Ah lui, il veut pas se prononcer. Bon, je vais mettre 3,5 quand même. Le samedi était incroyable. Le dimanche, sympathique, mais pas non plus waouh.
Ouais. Ah, je l'ai bien aimé, moi, ce petit dimanche. Je vous trouve un petit peu dur. Ah,
il y a eu des belles histoires.
Je suis Arnaud m'a ôté les mots de la bouche. C'est exactement ça. C'est-à-dire que certes, le week-end mériterait plus à quelque chose autour de 4. Mais comme le dimanche, moi, m'a un peu déçu, personnellement, je mettrais 3,5.
C'est vrai que le dimanche est un peu moins sexy, mais il y a tellement de belles histoires à en ressortir en fait. C'est peut-être plus après le Grand Prix que tu dis en fait il y a plein de choses à lire que pendant le Grand Prix.
Oui, c'est ce qui l'ouvre en fait. C'est la fin de saison qui l'ouvre qui est plus intéressante que le Grand Prix en lui-même.
Exactement. Bah, les gars,
podium.
On se plonge tout de suite. Bah oui, le podium. On se plonge tout de suite dans le débrief de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est parti. Allez, le classement de la course, les gros enseignements de ce 17e Grand Prix de la saison, la victoire de Max Verstappen, on en parlait devant George Russell. Je suis pas peu fier. Dans le warm-up, si vous m'avez écouté, j'avais vendu une Mercedes sur le podium avec les températures froides.
T'avais pas vendu Russell la gastro qui...
Ouais, non, ça.
De George Russell malade.
Ça se vend pas, ça.
Si c'était Singapour, il aurait pas tenu parce que Singapour, c'est encore plus des conditions humides.
Tu m'étonnes, mais il a réussi à aller gratter les 18 points de la deuxième place, George Russell, et celui qui complète ce podium, c'est improbable depuis le début de saison, on le voyait en grande difficulté, c'est Carlos Sainz au volant de sa Williams. On va revenir en longueur bien sûr sur ce podium de Williams qui était en fond d'écurie encore il y a 2 ans et qui est en train de se restructurer totalement, et ça paye. 4e, André Kimi Antonelli, 5e, superbe course et superbe week-end globalement de Liam Lawson, le coéquipier d'Isaac Hadjar sur sa Racing Bulls. Yuki Tsunoda 6e avec sa Red Bull. Ça faisait bien longtemps que Red Bull n'avait pas placé ses deux voitures à la première et à la 6e place. Lando Norris, le grand perdant du week-end, peut-être à la 7e position parce qu'il y avait l'occasion de prendre énormément de points à Piastri. Il termine seulement 7e. Les deux Ferrari 8e, 9e, week-end à oublier, et le point de la 10e place pour notre Frenchie Isaac Hadjar. Esteban Ocon est 14e. Pierre Gasly a galéré 18e. Et la
l'abandon d'Oscar Piastri. On va là aussi revenir en longueur sur la course de Piastri. Enfin, ça a été assez bref, mais il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est peut-être la première fois qu'Oscar Piastri passe totalement au travers d'un week-end en Formule 1. Les enseignements au classement. 324 points pour Oscar Piastri, 299 pour Lando Norris qui grappille, mais il y avait tellement mieux à faire. 25 points de retard pour Norris sur Piastri, et surtout il y en a un qui commence à revenir dans le rétrofort, c'est Max Verstappen avec 255 points. Ça nous fait quoi, 69 points de retard désormais entre Verstappen et Piastri. Il est encore loin, mais attention parce que Max le chasseur est là. Sinon, Isaac Hadjar conforte sa 9e place. Et là, Liam Lawson avec ses jolis points passe devant Alonso, passe devant Ocon. Voilà pour les principaux enseignements. Au classement des constructeurs, McLaren est toujours devant, 623 points devant Mercedes, 290. Voilà les gars pour les classements. Jean-Luc, je voulais qu'on commence et qu'on ouvre ce podcast avec la perf de Verstappen qui a réalisé un tour en qualif majuscule, comme d'hab, on a envie de dire, qui a maîtrisé cette course hein, puisqu'il s'impose avec plus de 14 secondes d'avance sur Russell. On va rentrer dans le débat après de la fin de saison, mais juste restons sur ce week-end-là. Jean-Luc, ça va mieux pour Red Bull, ça va mieux pour Verstappen et ça se ressent vraiment sur la piste. Hein.
Absolument, oui. Alors je vais un peu justifier aussi ma note très élevée, je suis d'accord. Allez, j'aurais mis plutôt 4,25, mais pourquoi ? On parle pas des qualifs pour le moment, on parle du Grand Prix, hein, c'est la question que tu m'as posée. Écoute, bien sûr, quand un pilote est devant, qu'il domine, qu'il creuse un écart et qu'il réalise le 6e grand chelem de sa carrière, à ce niveau-là, il faut le comparer à Hamilton qui est 2e et derrière Jim Clark. Parce que je crois qu'on a toujours du mal à prendre du recul, mais c'est l'histoire de la Formule 1 qui est en train de s'écrire devant nous. En termes de pourcentage de victoire, il est à 29,65, c'est-à-dire qu'il n'a que deux pilotes devant lui. Le pourcentage, c'est évidemment le nombre de victoires par rapport au nombre de grands prix auxquels il a pris part. Il est troisième, derrière Fangio et Clark à nouveau. Et en pourcentage de podium, il est à nouveau troisième derrière Hamilton et Prost. Bon, au-delà des chiffres, 67 victoires, 46 poles, 14e hat-trick et 120 podiums, c'est un monument. Moi, je le dis, je le redis, je le sais bien depuis le début de la saison et même avant, c'est le meilleur de la tête et des épaules. Dans des conditions très délicates, ça a été le cas des qualifs, évidemment, où les autres meilleurs se sont fait piéger, hein, à commencer évidemment par Leclerc et Piastri et quatre autres qui ont fini dans le mur. Bah, il est là, lui, il est toujours là, il commet très 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 peu d'erreurs. Vous me direz, je dis ça et puis à Singapour il va peut-être se mettre dans le mur, mais bon, c'est toujours à l'heure actuelle, donc voilà, dans les stats, c'est le troisième meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 en pourcentage, hein, je dis bien, parce qu'évidemment il y en a, bah, Hamilton on le sait bien, qui a plus de victoires, mais si on fait le ratio c'est moins bien, donc bah, c'est extraordinaire dans tous les sens du terme. Et le travail qu'il a fait, qu'ils ont tous fait, et là il faut souligner le travail de Laurent Mekies, hein, qui a été souligné par Helmut Marko et par tout le monde, et bien cette équipe elle est en train de reprendre vie, et la 6e place de Tsunoda en est la preuve. Donc je pense qu'on va avoir une fin de saison extraordinaire et c'est pour ça que j'ai mis cette note très élevée.
Ah ça j'adore quand tu me fais une ouverture comme ça, une passe D pour parler de la fin de saison. Juste on va écouter avant Max Verstappen au micro du diffuseur Canal+ après sa superbe victoire à Bakou.
Yeah, it's been two incredible race weekends for us.
On reste sur deux superbes weekends.
I think also this one in general, yeah, it's
ça s'est super
really,
bien passé
really
ici à Bakou.
Strategy was on point, the car
la stratégie
was
était parfaite.
Well, and, yeah,
et la voiture a parfaitement fonctionné, j'en profite. C'est jamais facile ici, mais heureusement d'un point de vue stratégique, il n'y a pas eu de safety car au milieu de la course, donc tout s'est bien déroulé. Donc globalement, je suis très content de gagner ici. Il reste encore 7 courses et il y a beaucoup de points à distribuer, donc personnellement j'y pense pas au championnat, mais on va faire course après course et puis on verra. Oui, parce que Max Verstappen, on l'a pas dit, mais ne s'était jamais imposé à Bakou en Azerbaïdjan. Ça faisait partie des dates au calendrier qui lui échappaient encore et il a réglé tout ça.
Ah, il s'était imposé en 2022. En 2022.
Ah oui, pardon. Ah oui, ah oui, oui, pardon. Oui, oui, complètement.
C'est sa deuxième victoire qu'il met au niveau de Pérez, d'ailleurs.
Oui, oui, je me suis complètement viandé.
Non,
oui,
il n'avait pas signé la pole, en revanche. Là, ouais.
Ah, c'était ça. Il n'avait pas signé la pole.
C'était une stat à Bakou.
Oui, totalement. C'était une stat au rabais.
On va faire tout sur cette vanne.
Au secours.
Arnaud, moi, je veux qu'on parle de cette fin de saison. Là, Verstappen, il le dit un peu là, avec Canal à la fin de la course. Il ne se projette pas. Mais il dit quand même, il reste 7 courses. Il y a beaucoup de points à distribuer. Et on se dit forcément que s'il y en a un qui peut venir tout perturber et tout arracher sur la fin de saison, bah c'est Verstappen.
Il y a de l'espoir, mais il va falloir que McLaren se troue encore. Est-ce que c'est possible ? Il y a quand même, et je regardais, et on en parlera un petit peu, quelque chose qui s'est passé après le Canada où je ne reconnais plus Oscar Piastri, par exemple. Et tu vois un Lando Norris où on s'est dit « il est au fond du trou », etc. Bon, alors il marque 6 points. Andrea Stella a dit que Lando Norris a fait ce qu'il a pu avec la voiture qu'il avait sur ça. Donc, à voir. Il reste quand même, niveau des points, quand même un sacré écart. Hein. 69 points entre Max Verstappen et Oscar Piastri. Et 44 points entre Max Verstappen et Lando Norris. Parce que pour le coup, moi, l'enseignement que je tire après ce Grand Prix, je ne sais pas qui, entre Norris ou Piastri, va terminer devant. Mm-hmm. Est-ce que Max Verstappen, 7 Grands Prix, bon, tu fais un calcul, il reste combien en sprint ? Il reste une ou deux, une course au sprint
deux,
peut-être ?
Deux,
ouais. Deux. Bon, moi si j'avais fait le Grand Prix, si tu prends 25 points et l'autre 18 points, 7 x 7, 49. Ça suffit pas si Max Verstappen fait premier à toutes les courses pour rattraper ses concurrents de McLaren. Mais imagine à Singapour, il y a encore un peu un scénario comme ça où Max arrive à grappiller des points. Évidemment que tu vas te poser la question, et en plus la dynamique, quand tu vois la qualité de McLaren sur les arrêts au stand, même si visiblement ça ne concerne que Lando Norris, bon Piastri on ne l'a pas vu ce week-end, ou encore des arrêts au stand très lents pour Lando Norris. Je faisais une petite stat là, pendant que j'écoutais Jean-Luc. Depuis l'arrivée de Laurent Méquies, qu'est-ce que ça donne ? Donc c'est la Belgique, Max Verstappen a pris 90 points, Oscar Piastri a pris 90 points, et Lando Norris a pris 73 points.
Serré.
C'est serré. Alors, il a raison de dire que, et c'est là peut-être sur le championnat du monde des constructeurs, où le fait de commencer, on voit un Tsunoda peut-être un peu plus motivé, un peu plus considéré, où commence à prendre des points. Là, va y avoir de l'enjeu, même si on est un peu plus passionné par le classement des pilotes, évidemment. Mais est-ce que Red Bull va pas aller titiller Ferrari pour la troisième place, voire Mercedes pour la deuxième place. Donc évidemment, ce qui est la grande satisfaction de ce week-end, c'est que ça rebat un certain nombre de cartes. Après, attention, si on a doublé McLaren à Singapour dans deux semaines, on va être douché. Hein.
Bah, non, mais ça, c'est une certitude. Mais malgré
tout, on reste
tout,
sur un fil.
Quand tu regardes les chiffres, Louis, en deux courses, Verstappen, il passe de 104 points de retard sur Piastri à 69 points de retard. Alors bien sûr, il y a des circonstances, des faits de course, mais la dynamique est complètement en train de s'inverser. Et on se dit que s'il y en a un qui n'a rien à perdre et qui, dans cette situation, peut être encore plus redoutable que jamais, c'est Max Verstappen.
Ah bah, c'est the one and only. Hein. De toute façon, lui, je l'ai bossé vers Châteauroux. Il y a pas mal d'anglais, c'était une ville américaine.
Castle Red.
C'est vrai, il y a la base américaine. Ouais.
Et on sent tout ça. Quoi. Mais ouais, non, il est vraiment redoutable. Et surtout, moi, c'est finalement la performance de Tsunoda qui me fait dire attention. Parce que si le deuxième pilote arrive enfin à rouler dans cette voiture, ça veut dire qu'elle est peut-être un peu plus simple, un peu meilleure et qu'ils sont plus proches clairement des McLaren. On a vu là, hier, la Red Bull a creusé. Donc là, il a une machine pour, pour les embêter jusqu'à la fin de la saison, peut-être même les dominer. Après, 69 points, il va falloir...
C'est 10 points par course, hein. Ouais, il reste 7, tu vois, c'est beaucoup.
Hein. Par course, c'est-à-dire que Piastri doit faire au moins 4 à peu près à chaque fois. Moi, j'y crois pas aujourd'hui. Mais c'est toujours pareil, c'est comme vient de le dire Nico et Arnaud, selon ce qui se passe le week-end prochain. Tu as deux trucs, tu as un doublé McLaren. Tu vois, je dis, j'avais raison. Mais il se passe encore un nouveau grain de sable à McLaren, parce qu'on a l'impression que là, en ce moment, il les accumule un petit peu, à droite, à gauche. Et là, on aurait une fin de saison de folie, parce que l'autre, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est comment il a sauté sur tous ses ingénieurs après, en sortant de sa voiture. on avait la sensation.
Elle revit cette écurie.
Ouais, voilà,
elle
on avait la sensation.
Il
était fou de joie et on ne l'avait pas vu comme ça depuis longtemps. Et je me dis, c'est peut-être aussi que dans sa tête, lui, il est en train de se dire, comme dirait Patrick Montel, alors peut-être. Tu vois, genre, je peux peut-être faire quelque chose cette année et garder mon titre. Bah, ça serait con. Bah, là, Jean-Luc le disait, il fait partie des plus grands sur le pourcentage. S'il nous fait ça, et vous savez qu'à la base, j'étais pas un fan de. Et je suis toujours pas fan en soi. Mais alors, respect, chapeau, tout ce que vous
et
voulez.
Franchement, son tour de qualif, déjà, je pense que c'est peut-être le plus beau tour de la saison. Mais alors. Ouais. C'est époustouflant, il met 5 dixièmes. Fin.
Et là, c'est le pilote qui joue. Hein. C'est le pilote, c'est pas la voiture.
Et la piste, elle est pas sèche.
C'est
hein.
ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire.
Jean-Luc,
j'allais dire.
Faut
que tu nous racontes un peu cette séance de qualif que tu as commenté sur RMC, où dans le dernier tour de la Q3, les pilotes sortent, il y a de la pluie, les pilotes sont en.
Les lignes sont trempées, parce que c'est ça.
Ouais, ça commence à être trempé. Tu vois des pilotes qui font des erreurs, et là, tu as Verstappen qui est bien au-dessus de la mêlée, Jean-Luc.
Oui, bah c'est fabuleux. Déjà, on rappelle quand même, ce n'est jamais arrivé hein, qu'il y ait 6 drapeaux rouges comme ça dans une qualif. La qualif a duré plus longtemps que le Grand Prix. Au total, ça a pris 2 heures. Donc, il y a eu quand même 3 drapeaux rouges dans la Q1 pour respectivement Albon, Hülkenberg et Colapinto. Il y en a eu un dans la Q2 avec le crash d'Oli Berman et puis 2 dans la Q3 et pas des moindres hein, parce que c'est Charles Leclerc et Oscar Piastri qui finissent dans le mur. Alors, là-dessus, on se dit, oula, les conditions, comme tu le soulignais, sont extraordinairement piégeuse, on rajoute le vent qui a atteint, il y avait des rafales à plus de 60 km/h, donc qui déstabilisait tous les pilotes, l'ont dit, sans exception.
Alors, regarde Isaac Hadjar sur son tour à la fin. Hein.
Absolument, qui déstabilisait les pilotes au moment où évidemment on s'y attend le moins, parce que ça tu peux pas le prévoir, t'as beau voir les branches, t'as beau voir les arbres, on voyait les feuilles d'ailleurs et quelques branches, petites branches qui arrivaient sur la piste, bref, c'était extraordinairement piégeux, donc il fallait un talent mais étincelant, j'en ferai jamais assez sur le talent de Verstappen, même si encore une fois, lui aussi, il peut lui arriver de commettre des erreurs, mais beaucoup moins que les autres, et puis surtout, quand il y a des conditions comme celle-là, bah, il est là, et on se doutait bien sur ce tracé-là que, évidemment, la pole, c'était pas une garantie de victoire, mais enfin surtout avec entre guillemets le matelas, et c'est pas du tout méchant hein, pour Carlos Sainz et pour Liam Lawson qui était derrière lui, mais bon, les premiers qui pouvaient vraiment lui faire mal, c'était éventuellement les Mercedes d'Antonelli et Russell qui étaient derrière, pour ne pas parler des McLaren et des Ferrari sur lesquels évidemment on va beaucoup parler, mais je veux dire qui n'étaient pas dans le coup, ils avaient du mal à remonter, ben il a fait un boulot absolument impeccable, il a rendu là-haut si une feuille, et c'est la raison de sa joie, comme tu le soulignais tout à l'heure, on l'a rarement vu sauter dans les bras de ces mécanos comme ça. Ah ouais, après 67 victoires, non, c'est carrément fabuleux. Puis encore une fois, il a raison, il prend les courses les unes après les autres, parce que statistiquement, je rajouterais un chiffre, on en a donné beaucoup, mais sur les 3 derniers Grands Prix, il marque 68 points. Vous parliez d'un retard de 69 sur le leader, bah voyez, bon, c'est juste théorique, hein, mais 68 points, c'est évidemment lui qui en marque le plus, hein, et de beaucoup. On en marque 24 du côté de Norris, et seulement 40 du côté de Piastri. Donc là, c'est vraiment la cavalerie. Et comme l'a dit Helmut Marko aussi, à tête reposée, il a dit après, bah, si on est encore bon à Singapour, alors là,
exactement.
Oui, là, tout sera permis. Parce que Singapour, évidemment que c'est un circuit en ville, mais c'est un circuit à fort appui, tout le monde le sait, avec une atmosphère chaude et humide, et parfois l'inverse. Donc ça veut dire que...
c'est le retour de Flavio aussi, non?
Ça y est, tu me fais rire.
Oui, il était là l'année dernière.
Comme Colapinto, on va le mettre dans le mur pour avantage.
Moi, je crois qu'il n'a pas besoin de consigne d'équipe.
Ouais,
je ne crois pas. Bon, donc pour redevenir sérieux, je pense que les espoirs sont permis. Moi, c'est ça qui me donne vraiment de l'espérance, parce que, enfin là aussi, on le dit, je le dis depuis début de la saison, le seul espoir qu'on ait eu au moment de l'écrasante domination de McLaren, c'était Verstappen et Red Bull. Et bien, il est concrétisé puisque, bon, Mercedes est là quand il fait froid, hein, donc à Singapour, il fera chaud, donc a priori, ils ne vont pas être là. Quant à Ferrari, qui peut savoir? Alors, à l'inverse, les Ferrari marchent un peu moins mal, on va dire, quand il fait chaud. Maintenant, il faut attendre. Là, ils sont un peu dans le jus, là.
Et tu sais ce qui est fort chez Max, c'est le rythme. Il avait 2 dixièmes d'avance sur Russell, 5 dixièmes sur la McLaren de Norris. On a revu la Red Bull de Verstappen d'il y a 18 mois, qui, bah, Elle avait la pole et puis elle partait et tour après tour. Et au bout de 5 tours, il y avait... T'étais 5 secondes
hasard,
derrière.
Ton deuxième pilote, d'un coup, il fait 6e au lieu de faire 12-15. Ouais.
Et vous savez à quand on remonte deux victoires consécutives de Verstappen, je l'ai sous les yeux, hein, Canada-Espagne l'an dernier. Donc
Canada-Espagne,
c'est exactement
ce
que tu dis. Et voilà, ouais. C'est ce que tu dis, ça remonte à 18 mois.
Basculons sur McLaren quand même, parce que forcément le destin de Verstappen est lié à celui des McLaren ce week-end, probablement le pire week-end de McLaren depuis le début de la saison, et on va s'intéresser tout de suite au cas d'Oscar Piastri, qui a planté sa voiture en qualif, qui a planté sa voiture en course après un premier tour cataclysmique. Louis, ouais. Il rate le départ, il plante la voiture au cinquième virage. Il a tout cumulé sur un seul week-end.
Ouais,
donc voilà.
C'est la fameuse maxime de Thierry Roland, vaut mieux prendre une fois 9-0 que 9 fois 1-0.
C'est ça. C'était pas Giroud qui avait sorti ça.
Giroud aussi.
Je crois que c'était mon Giroud.
Là, c'était Giroud. Enfin voilà, une vieille personne qu'on a beaucoup aimé. Mais ouais, non. Et c'est vraiment ça. Tu te dis bon, là, il a concentré. Après, on peut aussi voir à plus loin. Est-ce que la McLaren était compliquée ce week-end? Parce que j'ai trouvé que l'un et l'autre étaient pas bien dedans. Ou est-ce que c'est le mental des deux, ces deux jeunes pilotes, qui, vers la fin du championnat, quand la pression monte vraiment, et sont en train un peu de flancher. On se disait que ça n'arrivait qu'à Norris. Et là, finalement, quand même, Oscar, là, on est sur un beau cumul. Et puis, ce premier tour, il est presque gaguesque, en fait, parce que tu rates ton départ, mais tu t'en rends compte, tu freines. Donc tu te retrouves avec ton jump start, mais en plus à partir une demi-heure après.
Et Alonso fait aussi jump start, et il a dit à la radio, ouais, j'ai suivi Piastri.
Ah ouais, mais ce qui paraît pas étonnant, tu sais, quand tu es concentré comme ça, si quelque chose bouge, même si c'est une feuille, potentiellement, ça peut...
T'es en milieu de grille, tu vois,
exactement,
t'es pas devant.
Donc ça, je veux bien le croire. Mais alors derrière, donc le jump start, il se rate, il repart complètement derrière, et là, il fait l'erreur que... beaucoup auraient fait, c'est-à-dire...
Tout débutant, voilà, auraient fait.
Ouais, peut-être, ouais, j'allais pas le dire, mais tu l'as dit. Ouais. Mais en gros, tiens, si je rattrapais mon erreur en trois virages, attends, non, c'est fini, là. Attends, laisse faire ta voiture, laisse faire tes pneus, je sais pas.
Mais attends, alors, DRS.
Ouais, aller freiner 30 mètres trop tard sur un virage à 90 quand t'as une voiture à la corde, ça me paraît pas être le move le plus intelligent possible. Donc tu sens vraiment que là, sur le coup, t'es en surchauffe complète. Et c'était trop, quoi. D'ailleurs, on le voit dans sa réaction derrière, il rentre pas, hein, il fait les fameux, il reste dans le coin, il prend l'iPhone d'un commissaire, il regarde,
c'est le
Grand Prix.
On le voit dans sa cage derrière le grillage.
Et donc,
il rumine.
On comprend bien qu'il rumine, qu'il n'a aucune envie d'affronter que ce soit la presse ou même son garage pour le moment. Et donc, on sent pour la première fois une fébrilité chez l'Australien qu'on a quand même décrit tous ici de manière unanime comme un
pilote au sang-froid.
Un tueur de sang-froid, même, parce qu'il nous surprenait par son jeune âge et son peu d'expérience, en tout cas, par sa maturité. Et là clairement, on se rappelle, c'est un week-end où il nous rappelle « Eh oh !» J'ai que 20 piges, les gars.
Ouais. C'est vrai que pour la première fois, il a peut-être fait son âge depuis son arrivée en Formule 1, Oscar Piastri. On l'écoute au micro de Canal+. Alors déjà que quand il gagne, c'est pas la joie. Voilà. Hein. Je vous fais pas un dessin. Allez, Oscar Piastri. J'ai fait une erreur au départ. J'ai été trop enthousiaste. C'est aussi simple que ça.
That was already. Do you have the feeling Max and Red Bull are finally?
Est-ce que vous avez le sentiment que Max est de nouveau dans la course pour le championnat? Je sais pas, c'est dur à dire pour le moment, mais
I wouldn't rule them out.
Je ne vais pas les exclure. Bon, il a fait court, hein, Oscar. Voilà.
Il a plus court, ça reste Pierre Gasly.
Bon, si.
Comme court, ça reste Pierre Gasly, hein, quand même. Hein.
Avec la relance de Charlotte Gabas, notre consoeur sur le retour de Max Verstappen au championnat.
On a l'impression que sur ce week-end, McLaren a été sorti de sa zone de confort. Voilà, ça marchait un peu bien, un circuit un peu piégeux, qui pour le coup, pour un circuit urbain, Moi, je l'aime plutôt, hein, Bakou.
C'est pas mal. Hein.
Bah, franchement, ouais. T'as une énorme ligne droite, t'as ce virage du château qui est absolument magnifique. Franchement, dans les dernières trouvailles sur les circuits urbains, c'est quand même assez sympa. J'ai l'impression que chaque année, on a globalement des courses très animées. Hein.
Ouais.
Je parle pas
L'an dernier, c'était superbe. Hein.
Quand Verstappen, il y a quelques années, quand Verstappen crève dans la ligne droite ou que Lewis Hamilton, qui perd probablement là son titre de champion du monde quand il tire tout droit parce que ses freins sont pas à température. Mais... Oui, ils sont sortis de leur zone de confort. Maintenant, à Singapour, ça va être la rhétorique de la question. Alors, est-ce que vous allez vous rebondir, etc. Ça va être un vrai test. Hein. Ça va être un vrai test pour McLaren, savoir comment, après ça, après deux semaines à ruminer et à se dire, est-ce qu'on ne serait pas encore en train de perdre un titre de champion du monde ? Déjà que l'année dernière, bon, c'était un peu limite. Champion du monde des pilotes, parce que bon, champion du monde des constructeurs, il y a tellement d'écart que là, la question ne se pose pas. Donc ça va être intéressant de voir comment McLaren, sous pression, déjà l'année dernière, on ne les a pas sentis serein, mais là, on leur promettait tout. Imagine, à Singapour, ça se passe mal.
Ah oui, on leur promettait tout, parce que ce week-end, là ils faisaient 1 et 2.
On faisait les calculs pour dire, ah, vous pouvez être déjà champion du monde des constructeurs.
Bah, ils faisaient 1 et 2 dans le podcast, on était là, bon, alors les gars, on se met en quelle couleur, en orange, cette fin de saison. Enfin, c'était évident, quoi. Et là, là on se pose plein de questions. Bah, après, les amis, en vrai, on va pas se mentir, on l'a rêvé, hein, parce que moi, je me souviens de podcast en juin, où on se disait, McLaren, bah, ça va être long cette fin de saison.
Ah non, mais c'est génial, pour les observateurs, c'est génial.
Ouais, non,
Moi, Jean-Luc, alors en fait, on parle beaucoup de dynamique dans le paddock RMC depuis qu'on propose à nos auditeurs de suivre la Formule 1 tous les week-ends, et on parle beaucoup de dynamique dans les différentes écuries quand tout va bien pour la performance. Voilà, il y a la performance pilote, il y a la performance des ingénieurs, du développement, il y a la performance dans les stands aussi. Et là, cette dynamique chez McLaren, alors. Bon, je dis pas que ce week-end va conditionner la fin de saison, mais tu as plein de secteurs où tu es un peu moins performant. La perf pilote, dans le développement de la machine, dans les stands aussi, et au niveau des arrêts au stand.
Hein.
Ouais, voilà, exactement, ouais. Jean-Luc. Donc tu as vraiment la sensation que cette fameuse dynamique de confiance que tu avais quand tu étais ultra dominant, et bah, depuis la trêve estivale.
Et on entend moins Zach Brown, Jean-Luc. Hein.
Oui, ouais, j'allais te le dire, dis donc, figure-toi. Lui, il sait la ramener quand ils écrasent la concurrence, mais quand c'est moins bien, c'est marrant. Oui, c'est un système de communication, si on a bien compris. Bon, allez, on en revient à l'essentiel de ta question, mon Nico, qui est évidemment extrêmement pertinente. Bah, écoute, moi, ce qui me réjouit, vous savez ce que je vais vous dire, hein, une nouvelle fois, c'est que la Formule 1, ça reste profondément humain. Voilà. Alors, c'est technologique, c'est mécanique, c'est tout
Formule
ce qu'on
humain.
Veut, c'est stratégique. Pardon,
c'est formule humaine, humain.
Oui, c'est plein de
tout
fric
à fait.
Aussi,
formule humaine.
Mais
là aussi, si vous enlevez Verstappen, pourquoi j'ai autant d'admiration pour ce gars-là ? Là aussi, je passe pas mes vacances avec lui, hein, mais moi, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un vrai sportif au sens le plus large du terme. Et là, on peut dire un mot là aussi de ce qu'il a fait, sa qualification pour rouler dans l'enfer vert, hein, sur le Nürburgring.
Ça,
c'est génial. Ça veut dire qu'il en veut, quoi. Il adore ça. Il vit pour ça. Il pense pour ça, comme nous tous. Donc, il est comme nous, ce type-là. Il est toujours aussi passionné. Il est loin des raisonnements et des stratégies de com. Vous l'avez jamais vu faire des déclarations bidons guidées par les gens de la com de Red Bull. Jamais. Même quand ça allait très mal, quand il y a eu des histoire interne qui ne nous regarde pas, ça ne nous regarde plus. Non, mais il n'a pas voulu s'en mêler. Il a dit, écoutez, bah oui, bon, bah ça, c'est autre chose. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle du sportif. Quand on lui parlait, là aussi, des relations humaines, de ce qui pouvait se passer, même du deuxième baquet, sa position n'était pas facile. Il dit, bah, moi, ce n'est pas mon rôle de choisir le deuxième pilote. Je roule avec qui ? Bon, bah, j'adore ce type-là pour toutes ces raisons-là. Donc, on parle de McLaren. Bah, McLaren... Ils ont conçu une monoplace absolument formidable, ultra dominatrice, etc. Et puis, bah, comme les autres ont progressé, parce que tout n'est pas figé en Formule 1, et c'est ça qui est formidable aussi, c'est-à-dire que même si la majorité des équipes ont dit oh, « bah, on n'a pas les moyens, on travaille beaucoup sur 2026 », bah oui, mon œil, il y a quand même des titres à jouer. Bon, il y en a un qui est joué, là, je ne vois pas comment, McLaren ne l'aurait pas, ou alors il faudrait qu'ils nous fassent des week-ends comme celui-là jusqu'à la fin de la saison, je n'y crois pas trop.
Il faudrait qu'il y ait une tricherie.
Donc,
À Singapour,
ah, c'est toi qui as dit le mot. C'est toi qui as dit le mot. Donc bon, passons. En tout cas, les autres ont progressé. En tout cas, Red Bull a progressé. Et puis, on le sait, Mercedes, pour des raisons, et là aussi, c'est ça qui est rigolo, qui leur échappe totalement. Bah, quand il fait froid, bon, il faisait pas un froid glacial, il faisait 21 degrés sur la piste et 24... non, pardon, c'est l'inverse. 21 dans l'air et 24 sur la piste. Bon, on s'en fout. C'est relativement froid pour de la Formule 1. Bah, les Mercedes, elles marchent. Va savoir pourquoi. Donc, a priori, à Singapour, elles vont être à l'arrêt total parce qu'ils vont être incapables de mettre les pneumatiques. Par parenthèse, il y a un pavé dans la mare de nos amis de Pirelli. Ils nous sortent le C6, là aussi, qui sert à rien. Comme l'a dit Verstappen avec sa franchise habituelle, celui-là, ils peuvent l'encadrer, se le mettre dans un placard. Il ne sert à rien.
Tant que c'est dans un placard.
Ah bah ouais, c'était soi-disant pour ouvrir les stratégies, t'as raison. Les stratégies, c'est impossible de l'utiliser, même sur un tour, il tient pas le coup. Et même quand il fait froid. Donc bon, ça veut dire, bah c'est une merde, quoi. C'est un mauvais pneu. C'est ce qu'a dit Verstappen, il a dit c'est un mauvais pneu, point final. Bon voilà, ça c'est fait, j'en ai habillé deux dans la même phrase, donc ça c'est... Donc, on en revient à McLaren, c'est ta question mon Nico. Bah écoute, malgré tout ça, donc les autres ont progressé, notamment Verstappen, parce que vous enlevez Verstappen quand même, bah il n'y a pas grand monde pour contester la domination de McLaren. Et donc, vous avez des jeunes pilotes, malgré tout. Il a à peine 24 ans, hein, le Piastri. Donc, c'est normal qu'il ait des failles. Je pense que comme c'est un type extrêmement intelligent et une nouvelle fois un tueur froid, j'aime beaucoup cette expression pour ce qui le concerne, il a déjà à la fin, je pense, du Grand Prix, en ayant regardé, il a ruminé, il a dit « celle-là, je ne la ferai plus ». Donc, et je suis certain qu'il ne la fera plus. Il ne fera pas la même. Il fera peut-être d'autres erreurs, ça peut lui arriver. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend. Là aussi, il faut quand même rappeler, Verstappen, il a commis un paquet d'erreurs au début. Vous êtes d'accord avec moi ? Oh oui, ouais. Disent-ils en cœur. Bon, ben
oh,
voilà.
Oui. Donc,
oh oui.
Merci beaucoup. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. Allez, je termine ma phrase. Je mets un point, mon Nico. Tu vas être content.
Oui, parce qu'il ne faut pas non plus trop tirer sur Piastri. On reste quand même sur... je regarde combien de podiums de suite ? Bon, hormis le Canada.
44 fois, il termine. 44.
Ouais, oui,
il a mis fin à une série, là.
Ouais, c'est clair. Bah tiens, on va écouter quand même Lando Norris, parce qu'on parle beaucoup de Piastri, mais il y en avait un qui avait l'occasion de reprendre de gros points, c'est Norris. Au final, il grappille 6 petits points. Alors qu'il y avait tellement moyen.
Après,
de
faire
mieux.
Après, il y avait le train Lawson, hein, dans la course, hein.
Il y avait le train Lawson, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Enfin, on va
mais
en
bon.
Parler.
Allez, on va en parler, on va l'écouter et on en parle. Lando Norris.
No, just too difficult to overtake, you know. So
c'était trop difficile de dépasser, même en étant le plus rapide en piste. Je pense pas que nous aurions pu faire mieux que la 7e place aujourd'hui. Il y avait peut-être certaines petites choses qu'on pouvait mieux faire, mais bon, c'était impossible de dépasser. C'est comme ça. Voilà, Lando Norris, bon, qui...
Bah, il n'a pas totalement tort quand même sur le fait que c'était dur de dépasser quand on a vu dans la physionomie
bien
du
sûr.
Grand Prix.
Oui, mais bon, il n'était pas obligé de rater son samedi non plus.
Non.
Ouais.
Hein ouais.
Puis il pouvait tenter un truc, il n'a rien tenté pour moi.
Ouais, et puis oui, voilà.
C'est souvent qu'il est un petit peu trop attentiste, quoi. C'est-à-dire il a le talent pour être champion du monde quand tout va bien. Mais le problème, c'est que sur
les arrêts au stand de McLaren, il vaut mieux éviter de tenter quelque chose avec.
Ouais, c'est peut-être pas le moment. Peut-être pas le moment de le faire.
Si on peut juste faire un arrêt et mettre des hard, vas-y.
À leur place, moi, le mec qui tient le pistolet, je le mettrai à l'arrière. Comme ça, les problèmes, ce sera à l'arrière et plus à l'avant, c'est mieux.
C'est l'avant-droit, là, qui a un peu.
Mais tu sens quand même, enfin je sais pas ce que vous en pensez les gars, Louis là, mais tu sens que Norris là dans cette fin de saison, il y a quelques opportunités. Il va y en avoir très peu en plus parce que Piastri est très performant et on se doute qu'Oscar Piastri va pas se liquéfier comme ça sur les 7 derniers Grands Prix qui restent. Mais malgré tout, il y en a des opportunités alors qu'en début de saison, il y en avait pas. Et à chaque fois qu'il y a moyen de faire le gap, tu vois, et de remettre la pression, là où les très grands champions peut-être auraient pu bénéficier de circonstances de course en sa faveur, et ben lui il passe à côté.
Juste avant, Louis, j'ai une stat. On a beaucoup de stats. Depuis le Canada, où là, énorme erreur de Lando Norris, il y a eu cette course. On est à combien dans le duel
Moi, je pense qu'il est devant.
On est à 5-2 pour Lando Norris.
Ouais, c'est ça.
Et encore, dans les deux, il y a une casse moteur à Zandvoort.
Ouais.
Il est devant en Autriche, devant à Silverstone, derrière à Spa, devant... c'est quoi ce drapeau ?
C'est écrit en petit.
La Hongrie, voilà.
La Hongrie.
Il y a eu la Hongrie et la Hollande.
Zandvoort battu, Monza, il est devant, P2, P3. Et bon, bah là, du coup, Norris, il est devant à Bakou. Mais c'est une erreur pilote, c'est pas une casse moteur.
Mais ouais,
5-2, je trouve ça. 5-2, je trouve ça assez
très
éloquent.
Bon en imitation, mais très mauvais en géographie.
Il est petit, mon drapeau, là, j'ai imprimé. J'étais là, c'est bizarre, j'ai pas reconnu le vert.
Et puis, il n'y a pas les couleurs, ça aide pas non plus.
Il avait la tête de travers, il croyait que c'était la Bulgarie. Pour moi, Lendo m'a un peu déçu ce week-end parce que justement, ouais. J'étais complètement, et dans le podcast, je l'ai dit, je me disais, là, je sens que depuis sa mauvaise période, il est revenu, il fait des bonnes courses, il a presque pris une espèce d'ascendant. On sentait aussi que les stratégies McLaren, elles sont assez neutres, mais elles penchent rarement du mauvais
c'est
côté.
C'est un peu le modem, d'ailleurs c'est les mêmes couleurs,
ouais,
l'orange. Quoi.
C'est ça, les bonnes.
C'est François Bérou.
Et donc Norris, je me disais, bon, il l'a retrouvé cette niaque un peu, mais là, c'était le moment. Alors peut-être qu'il s'est dit, vaut mieux 6 points, je suis quand même entre les murs. Mais bon, entre les murs, tu seras aussi à Singapour. On est allé en Arabie Saoudite,
je sais pas. Pas encore.
C'est le début ou c'est la fin de l'année maintenant? C'est à la fin de l'année.
Arabie Saoudite, c'est le dernier.
Donc il te reste.
Non, c'est Abu Dhabi le dernier.
On est allé en début d'année. Oui, c'était le cinquième Grand Prix. Le cinquième. Après Bahreïn.
Il en reste encore une entre les murs, mais ce que je veux dire, c'est que il va falloir y aller, quoi. Donc j'étais assez circonspect sur déjà même le samedi. Alors bon, quand Piastri se met dedans, lui, c'est déjà un peu trop tard pour tout refaire, mais il aurait pu le faire aussi sans savoir que son coéquipier était dans le mur. Et je pense que c'est là que ça se joue d'ailleurs, parce que bon, après, quand tu pars 6-7. C'est compliqué le lendemain, la qualif est hyper compliquée, il fallait sortir au bon moment, aucune des McLaren sort si tôt, bon voilà, il doit tout faire le dimanche et il fait rien parce qu'il dit qu'il n'y avait rien à faire. Ouais, il n'y avait pas grand chose à faire, mais on aurait aimé au moins que tu te sentir essayé, quoi, c'est ça.
Ouais, c'est clair. C'est vrai que Jean-Luc, il tente rien, ouais. Quoi, Norris,
voilà.
Dans ce genre de scénario, Jean-Luc.
N'a rien.
Je sais pas.
Ben voilà.
Mais quand toi, tu parles le temps des très grands champions que tu as connus depuis tant d'années, là. Un très grand champion, dans cette situation-là, quand il se passe ça, il prend des risques à fond, quitte à tout perdre. Mais il y a un moment où tu as l'impression que Norris, il tente rien, quoi.
Exactement, mon Nico. Écoute, c'est là qu'on retrouve notre Norris, hein, encore une fois. Charmant garçon, j'en doute pas un instant, sûrement très sympathique, bien lisse, bien poli, bien propre, bien anglais, comme tout le paddock aimerait qu'il soit champion du monde. Bah oui, mais si ça continue comme ça, il ne le sera pas. Et là, alors il a beau dire, là aussi, la com, il dit après, oh ben non, il n'y avait rien de mieux à faire et tout, non, c'est pas une erreur. Mais bien sûr que si, tu as parfaitement raison. Un couillu, je l'ai dit, un gros couillu qui risque le coup, quitte à se mettre dans le mur lui aussi. Mais là, il se dit, putain, mon équipier n'est plus là, j'ai une opportunité de refaire une grosse partie du retard. Alors je sais, les trains de DRS, on connaît ça par cœur, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est handicapant, bien sûr que ceci, mais on tente un coup de stratégie, on tente quelque chose, il ne tente rien. Il s'arrête au 38e tour, tout le monde s'arrête à ce moment-là. Russell au 40e, Verstappen au 41e, enfin Tsunoda au 39e, il fait rien en fait. Il conduit sa voiture, je dirais, il la pilote pas, il la conduit, il l'amène au bout. Alors il est à sa place, ça tombe très bien, alors c'est gentil, il part 7e, il termine 7e. Est-ce que c'est la carrure d'un champion du monde?
Non.
Non.
Moi, je vote
c'est
non.
Tout.
Fin du podcast.
Je suis désolé. Alors, on va pas lui.
Prochaine.
On va pas lui taper sur la tête sans arrêt pour son erreur du Canada, parce que à la limite, tu vois, et on l'avait dit à l'époque, hein, on peut lui pardonner. Bien sûr que un pilote de course, c'est un pur sang. Il commet des erreurs. C'est normal. Il tente des trucs et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais là, il ne tente rien. C'est ça le problème. Comment veux-tu, quand tu as 31 points de retard au départ du Grand Prix, que ton équipier se rate à ce point-là deux fois, tu tentes rien? Écoute, tu mérites d'être vice-champion du monde, si tout va bien.
C'est la phrase de Senna. C'est la phrase de Senna. Voilà. Hein. Si tu vas plus dans l'espace libre, t'es plus un pilote. Hein. Donc,
Après avoir cité du Giroud, là, t'es bien niveau citation.
Et t'as vu que je l'ai faite en français, parce que normalement, on l'a fait en anglais, mais comme je me suis fait charrier là tout à l'heure, j'ai bien compris.
Non, c'est pas notre genre.
On va y aller avec la langue de Molière, ça va être simple.
Mais on va voir cette réaction de McLaren dans 15 jours à Singapour. Ça va être super intéressant de voir comment, niveau performance et même au niveau mental, ils vont réussir à se remettre dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros enjeu du prochain Grand Prix. Ouvrons le chapitre Williams et Carlos Sainz, les amis, parce que Williams a signé son premier podium en Formule 1 depuis la Belgique 2021. Alors Grand Prix particulier, mais voilà, ça concrétise tout le boulot qui est effectué par le directeur de l'écurie, James Wolff, depuis qu'il a repris les rênes de Williams. Jean-Luc, je commence par toi parce que toi, Williams, tu as connu la grandeur de Williams. C'était une écurie qui galérait depuis pas mal d'années. On était super excités avant le début de saison par cette line-up de pilotes, là, Carlos Sainz, Alex Albon. Et puis ce qui est beau, c'est que celui qui arrive à concrétiser ça avec un podium, alors qu'Albon fait une saison magnifique, c'est Sainz qui était en totale galère et qui commençait à être franchement critiqué, Jean-Luc.
Absolument. Bah écoute, c'est génial. Moi, je suis ravi pour lui parce que pareil, Carlos Sainz, c'est un pilote qui est un petit peu méprisé, tu vois, mais pas seulement chez Ferrari, où encore une fois, on l'a viré pour faire la place au dieu Hamilton, mais ça a été le cas ailleurs aussi. On le dit, oui, il est gentil, bon, il roule bien. On rappelle quand même qu'il avait été coéquipier de Verstappen, hein, je sais même plus comment ça s'appelait, Toro Rosso, on va dire, Racing Bulls, oui. Enfin, appelez-le comme vous voulez. Donc, dans l'écurie, la deuxième écurie de Red Bull. Non, c'est un type, alors lui aussi, c'est un vrai sportif. Le pauvre, parce qu'il a été accablé par tout un tas de malheurs mécaniques, de malchance, il l'a dit là, avec ses mots, et moi j'apprécie ça. Il a dit, la preuve, il ne faut pas perdre la confiance en soi. Ça a dû être très difficile pour lui, à plusieurs reprises d'ailleurs, où on pouvait commencer à mettre en doute même son talent, pourquoi pas, ses capacités. Là, en un week-end formidable, il est récompensé. D'abord, il croit en Williams, c'est vraiment une option. Et là aussi, on a parlé d'échanges de baquets. Enfin, dans le paddock, on raconte évidemment n'importe quoi, comme toujours. Échange avec Antonelli. Non, il est chez Williams, il y croit. Je crois qu'ils ont passé un pacte avec James Wolff, et dans le bon sens du terme. Comme il a dit, on le voulait. Pardon ?
Le pacte des loups avec James Wolff.
Oui, monsieur. Bravo.
Mais quel talent. Non, mais attends.
On applaudit.
Bon, si j'étais pas dans le paddock, je dirais je reste sans voix. Mais vous savez que c'est impossible. Donc je continue. Non, écoute, c'est génial. Je suis ravi pour lui. Il le mérite amplement. Il a fait un boulot remarquable. Là aussi, il n'a pas mis un pied en dehors. Et pourtant, c'était facile dans ces conditions piégeuses. Mmh. Il est récompensé. Il récompense Williams. On l'avait déjà dit dans le passé. Avant même ce Grand Prix-là, Williams avait plus marqué de points là, depuis le début de saison qu'en 7 saisons consécutives. Le dernier podium, effectivement, c'était Spa en 2021. C'est génial. Écoute, je suis ravi pour lui. C'est une belle récompense et j'espère que là, toute la fin de saison va être de ce niveau-là. Ça va être difficile, évidemment. Il faudra que les autres se ratent. Mais je crois que si on avait perdu la confiance, on l'a retrouvée.
En tout cas, c'est une bonne poire chez Williams.
Excellent. Allez, on enchaîne.
Et c'est un festival.
Le problème, c'est que c'est dur de repasser après le pacte des loups.
C'est numéro 1.
La barre est très, très haute.
La note sur 5 sur cette vanne. Moi, je donne 5.
Moi aussi. Carlos Sainz, au micro de Canal Plus, après la course, on l'écoute.
Very good. Probably the best podium of my career.
C'était vraiment excellent. C'est sûrement le meilleur podium de ma carrière. C'est encore mieux que mon premier podium parce que la saison a été très difficile pour moi. Au niveau des résultats, c'était pas le cas au niveau du rythme, je l'ai répété plusieurs fois, j'étais à l'aise avec la voiture et l'équipe, j'aime la manière dont on travaille avec l'équipe, on bosse bien, on a toujours besoin de résultats dans le sport et ils ne venaient pas. Et j'ai toujours dit que si lors de notre première occasion de faire un gros coup, rien ne nous arrivait, alors je serais heureux, et aujourd'hui rien n'est arrivé, on a concrétisé un super résultat et un magnifique podium. J'avais le sentiment de pouvoir le faire. J'ai confiance en là où je suis. J'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance dans le projet et j'ai hâte de voir ce que nous réserve le futur. Voilà, Carlos Sainz au micro de Canal+. Comment vous avez vécu ça, Arnaud, Louis, là, surtout cette séance de qualif où Sainz arrive à... tu vois, on parlait de Lando Norris et des super champions, de Norris qui n'arrive pas à faire basculer le truc en sa faveur. Là, Sainz, il a une demi-opportunité. Et ça se concrétise par un podium, un peu comme Adjar à Zandvoort en fait. C'est des gars, il y a des gars comme ça, là, sur la grille, tu leur laisses une demi-miette, et ils arrivent à le concrétiser. Et Sainz l'a fait.
Moi, j'ai eu plein de réflexions au-delà en fait, de sa performance. Je m'étais dit, Carlos Sainz, c'est un peu le pilote qui n'a jamais été là au bon moment dans la bonne écurie, tu vois. Il en a fait des écuries. Ah bon, alors Toro Rosso, t'as jamais la voiture pour gagner. Il a fait deux saisons chez Renault. McLaren, bon, il y est quand ça commence un peu à se relancer, mais t'es loin d'avoir une voiture très compétitive, même s'il aurait pu faire une victoire à Monza, et ça, on est bien content qu'il ne l'ait pas faite en 2020,
ouais, oui.
Parce qu'il est juste derrière Pierre Gasly, le
ah
menacé.
Ah bon, qu'est-ce que tu veux dire?
Voilà. Chez Ferrari, bon, là aussi, tu vois, t'as jamais eu trop la victoire, et chez Williams, tu pars sur un nouveau projet, donc déjà très content, parce que c'est un véritable gentleman, Jean-Luc en parlait, voilà, sur les pilotes, Carlos Sainz, tout le monde l'adore, en fait, c'est un mec propre, c'est un mec humble, c'est un bosseur et c'est un super pilote. Et l'autre réflexion que je me faisais en voyant Carlos Sainz et plus globalement les Williams tourner, l'inversion de trajectoire entre notre chère écurie adorée Alpine et Williams. Quand tu vois Williams au moment du rachat où Claire Williams va passer la main, où ils en sont, leur line-up de pilotes, bon, je crois que tu avais Albon, tu as dû avoir Albon Sergeant une année, etc. Mais bon, tu n'avais pas forcément des. Tu as eu Latifi, ça ne faisait pas forcément rêver. C'était une écurie, tu n'avais même pas l'écran dans le volant, vous vous souvenez un petit peu de cette.
Bien sûr,
McLaren aussi. Et là, tu vois l'inversion de trajectoire comme quoi. Oui, il faut un petit peu de moyen terme en Formule 1, mais quand tu recrutes les bonnes personnes, que tu fais confiance aux bons talents, bah voilà, tu arrives à être payé des résultats. Et quand tu vois l'inversion de trajectoire entre Williams, qui est aujourd'hui la cinquième écurie du plateau, et malheureusement notre écurie franco-britannique, mais plus britannique que franco, ça fait mal au cœur. Moi, ça m'a fait mal au cœur.
Mais ouais, non, mais Sainz, moi, ce que je trouve impressionnant, pour compléter ce que dit Arnaud, c'est... Il est pas, il a jamais été considéré comme chapeau 1,
top, comme Charles Leclerc par exemple,
top pilote, voilà. Je pense que c'est celui comme un bon vin ou comme certains écrivains, ça sera peut-être à la fin, voire après sa carrière, qu'on dira, eh hey, mais en fait. Carlos
c'était
Sainz.
C'était ultra solide.
C'était au-dessus d'Alonso.
C'était hyper solide quand même. Alors, quand tu dis propre, il est plutôt propre. Il a quand même une petite réputation en FP1, FP2 de ne pas être le plus courtois et voilà, pour laisser sa place autour. C'est souvent que des pilotes lâchent quelques noms d'oiseaux à son sujet en free practice. Mais sinon, c'est quand même un pilote solide. Et surtout, j'avais remarqué ça chez Ferrari. C'est un pilote, sur une saison, il ne sait pas faire. Il ne peut pas être au top une saison. En revanche, il a toujours sa période, quand il est en confiance et tout. Et peut-être que ce podium va lui offrir ça, un peu d'entrer dans la zone, quoi. Et quand il y est, moi, souvenez-vous, face à Charles, c'était sur 3-4 mois, je me souviens d'une période. Moi, je ne le disais pas trop fort, mais Carlos, était clairement devant. Hein. Ah. Et finalement, Albon, qui est aussi dans sa génération un super pilote, Sainz est déjà là, voire plus que là. En plus, ce week-end, Albon, il n'a pas vraiment brillé, donc la comparaison fait un peu mal. Mais ouais, non, franchement, Carlos Sainz, pareil, moi, c'était pas un des pilotes que je suivais trop, que j'appréciais, comme que ça soit sur le pilotage ou plus globalement.
Là, c'est un pilote, t'as du mal à lui donner le statut de numéro 1.
Ouais. Et pareil aussi.
Il n'est pas flamboyant.
Il a de ça. Et ouais. Finalement, ces pilotes-là, du coup, il leur faut du temps pour nous montrer que finalement, en fait, c'est hyper solide et que on va sûrement voir une très belle fin de saison de sa part.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Louis, quand même, l'an dernier, il est cinquième au championnat avec 290 points. Il a deux victoires au compteur.
C'est ce que disait à l'opposé, parce que tu as l'Australie début de saison et Mexico fin de saison.
Ouais. Non, c'est quand même quelqu'un de solide, alors que Charles n'en a que trois dans la saison. Évidemment, il est mieux placé au championnat, puis on se rappelle qu'il se bat évidemment avec Norris. Mais non, c'est un type qui mérite ce qui lui arrive de bien. Voilà.
Exactement. Et grâce à ces points, ces bonnes perfs là d'Albon et de Sainz, Williams qui consolide sa cinquième place au classement des constructeurs, 101 points. Hein, ils ont
101 points
d'avant.
Williams. Juste cette phrase quand
ils ont passé la barre des 100 points.
Tu te dis waouh, ça fait plaisir.
Et ils ont 29 points d'avance sur Racing Bulls, quasiment 40 points d'avance sur Aston Martin, le projet dont tout le monde parlait, Aston qui est septième au classement des constructeurs.
C'est
Écoute, on verra l'année prochaine.
Sixers, c'est genre, c'est un process. Mais
j'espère vraiment qu'Adrian Newey n'a pas regardé la voiture de 2025. Hein.
Ouais. Et on parlait de la comparaison avec Alpine. Il y a 81 points d'écart entre Williams et Alpine.
Et puis Alpine ce week-end, on va peut-être même pas en parler ce soir. Parce
on va pas en parler, c'était pas prévu.
Ça fait mal au cœur. Hein.
Ouais. Quatrième parce que là, week-end de suite à 0 points.
Ouais, bah, soyons pudiques.
Ouais, voilà. Attendons tranquillement.
La question, c'est de savoir est-ce que Colapinto va vraiment finir la saison.
Oh oui.
Enfin, et je tu sais, il est pas nul hein, par rapport à Pierre.
En plus,
c'est ça
ce week-end, il est pas nul.
C'est la voiture qui a un problème. Hein. Quand tu vois le rythme qui est là, c'est la voiture qui est vraiment là.
Ouais. Ah ouais, non, la voiture est...
À l'arrêt, c'est une voiture de Formule 2 là.
Ouais. Ah ouais, on dirait c'est trop Aircross. Et pourtant, et ça roule pas mal.
Et toi, plus, t'as le PureTech dedans, non?
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Et allez, ben voilà. Ferrari, Jean-Luc, parce que Ferrari, quand même, là, ça devient très compliqué. Avant d'ouvrir le dossier et de se replonger dans le week-end de Ferrari, on va écouter Charles Leclerc qui s'est manqué. On le disait. Il est resté sur 4 pole positions consécutives à Bakou. C'est un circuit qu'il appréciait. Là, il s'est planté en Q3. Il a fait une erreur en mettant sa Ferrari dans le mur. Et forcément, ça a plombé son week-end. Et globalement, le week-end de la Scuderia a été mauvais. Charles Leclerc.
Est-ce que Lewis Hamilton était censé vous rendre la place à la fin de la course?
Alors, traditionnellement, on parle d'une 8e et 9e place. Donc, c'est pas comme. C'est pas la fin du monde, mais honnêtement. C'est pas du tout ce à quoi je vais penser en rentrant à la maison. C'est plus la performance décente du week-end. Je dois prendre ma part de responsabilité. C'est une grosse part de responsabilité sur un week-end aussi mauvais que celui-là, parce qu'en qualif, on avait le potentiel pour faire, je pense, première ligne. Peut-être pas la pole, mais première ligne. Et on n'était pas au rendez-vous à cause de mon erreur en début de Q3. Ça nous fait partir P10. Et après, oui, la course, je pense pas qu'il y avait beaucoup mieux à faire. En fait, c'était un petit peu... pile ou face sur il fallait tomber sur la stratégie sur laquelle où il y avait le plus de voitures rapides qui étaient sur cette stratégie là. Malheureusement, je suis tombé sur la stratégie où j'avais Liam qui avait pas forcément un rythme super bon, mais par contre une vitesse en ligne droite très rapide, donc du coup c'était impossible de doubler.
Voilà, Charles Leclerc, Jean-Luc, comme d'hab, très franc, hein, il se cache pas, lucide, il a fait une grosse erreur, ça a plombé son week-end. En fait, avec la Scuderia, j'ai l'impression depuis le début de saison, Jean-Luc, on n'arrive pas vraiment à les situer. T'as pas de régularité, en fait. C'est soit t'es bien, soit t'es très mauvais. T'as jamais de constance, en fait, quasiment.
Soyons clairs, c'est le super pilotage de Charles, hein, parce que si on parle de hiérarchie, j'allais dire subjective des pilotes, il est évident qu'il fait partie du trio de tête. Hein, l'autre, c'est Verstappen, et après, selon ses choix, on y mettra Piastri ou Norris, probablement. Donc, c'est Charles qui surpilote souvent, qui parvient à hisser la Scuderia et la Ferrari, mais il faut bien reconnaître que depuis 4 Grands Prix, bon, il a terminé 4e effectivement en Hongrie et 4e en Italie, mais loin du compte, en fait, pour être clair, pas vraiment dans le coup. J'ai mal à mon Cavallino Rampante, là, pour le moment. Hein. Et quant à Lewis, Lewis, il n'y est pas, une nouvelle fois en qualif. Et puis, en course, bon, il y a cette histoire de place non rendue. Alors là, un septuple champion du monde, après 2392 Grand Prix, qui n'arrive pas à se caler pour rendre la place à son équipier. Oh, pour 4 dixièmes. Oh, il ne l'a pas fait exprès. Oh, non, comme dit Charles, bon, allez, on va parler d'autre chose, parce qu'on ne va pas essayer de créer une polémique où il n'y en a pas. Pour une 8e place, comme il dit, il n'en a rien à faire. Mais c'est misérable, c'est le mot. Ça veut dire que on va mal, hein, chez Ferrari. Alors encore une fois, comme évidemment il fera chaud à Singapour, normalement chaud et humide, et qu'on peut compter évidemment sur un surpilotage de Charles, peut-être qu'il peut sauver les meubles, mais on parle vraiment de sauver les meubles. Non, la Scuderia n'y est pas. Et ce qui est important, tu le rappelais tout à l'heure, mon Nico, c'est qu'au classement constructeur, on a vraiment 3 écuries dans un mouchoir. Hein. On a Mercedes là, qui fait un beau tir groupé avec 30 points, et ils sont à 290. On a la Scuderia qui, misérablement, marque 6 points. Et puis, on a Red Bull qui marque avec les deux pilotes, et c'est eux qui marquent le plus, hein, 33 points. Donc, 290, 286, 272. Moi, je vous dis un truc, hein, parti comme c'est, avec les deux pilotes de Red Bull qui marquent des points maintenant, vous me voyez venir, et Mercedes Mercedes qui, de temps en temps, ils ne savent pas pourquoi, fonctionnent bien, bah, ils ne vont même pas terminer deuxième du championnat. Ils peuvent terminer 3 ou 4e, ce qui serait alors là une vraie catastrophe. Non, non, c'est là aussi bah, vivement 2026, parce que à part un exploit personnel de Charles, je ne les vois pas redresser la barre avant la fin de la saison.
J'étais en train encore de faire des calculs, parce que je fais beaucoup de calculs en vous écoutant. Je regardais...
Bravo, tu ne nous écoutes pas alors.
Mais si, c'est en fait non, la moyenne de points pris par course, j'étais en train de faire ça pour voir l'évolution et sur quelle base, à la fin de la saison, Ferrari allait. Pour l'instant, la dernière saison où on a une moyenne de points aussi basse, c'est 2021, où ils sont à un peu moins de 15 points pris par course. J'ai fait ça parce que quand tu as 22 ou 24 courses, c'est, tu ne vas pas comparer le total à la fin. Ouais. Donc, on s'attendait à du mieux en fait, chez Ferrari, et là, tu as l'impression que c'est une année... Alors, ça va qu'on est en fin de réglementation, mais t'as un coup de mou, quoi. Prennent pas les points.
En fait, moi, ce qui m'alerte et ce qui est peut-être aussi un peu alarmant pour 2026, même si on sait que tout va changer, c'est surtout que c'est complètement à l'opposé des discours que tu tenais en début de saison. Parce que si en début de saison, on t'avait dit non, mais on amorce, c'est la dernière année de la réglementation, on est en transition, il y a Lewis Hamilton qui arrive, il faut qu'il s'acclimate à l'équipe, c'est pas notre priorité. Sauf qu'en début de saison, lui, on te dit on va jouer le titre.
Et attention, on va pas faire quatrième au constructeur. Hein.
Ouais, mais
ben voilà, pas. C'est ça.
Mais tu vois ce que tu dis, Nico,
il y a que 16 points.
Le problème, c'est que déjà quand t'es Ferrari, c'est beaucoup plus dur que les autres de dire la réalité par rapport à tes ambitions. T'es obligé de vendre du rêve, t'es Ferrari, tu vois. Donc déjà ça les met dans une situation où tu vois par exemple chez Williams, ils ont pas ce problème. Chez Williams, oh, les gars, laissez-nous le temps, on revient. Déjà on a changé le système. Les mecs, ils avaient encore du papier et du crayon, on leur a acheté des ordi. Enfin tu vois. Et donc t'as une mansuétude face à Williams. Ferrari. Tous les ans, et surtout depuis 2007-2008, Raikkonen, tous les ans, on attend qu'ils regagnent. Et donc, eux, ils peuvent pas avoir ça. Et alors, là, tu rajoutes la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, j'y retourne en anglais. et Lewis Hamilton, mais tu peux pas dire ce que tu disais dans ta question, Nico. Tu peux pas dire, bon, Lewis arrive, mais c'est la dernière. Non, t'es obligé. Donc, en fait, tu te retrouves un peu coincé. Et moi, je suis très, très heureux qu'on ait clos le sujet Vasseur et qu'il ait prolongé. Parce que dans cette fin de saison un peu pourrie, un peu, voilà, tu te dis, t'es pas à l'abri qu'un matin, Elkan, ils disent, allez, ciao, tu vois. Alors, tu me diras, il peut le dire même si le contrat est prolongé. Ça lui coûtera juste plus cher. Mais parce que c'est pas du tout la règle Laurent Blanc. Ouais, exactement. C'est pas du tout ce qu'il faut, en fait. Il faut de la sérénité. Il faut arriver sur 2026 en croyant au projet, en gardant l'équipe. Et finalement, on pourrait dire qu'ils sont peut-être dans une situation, on va dire, alpinesque. J'entends par là, genre... Bon, nous, on a peut-être un peu plus lâché 2025 que les autres. Et là, maintenant, il faut tenir ensemble parce que ça ne va pas être fameux. Le problème, c'est que quand ce n'est pas fameux à la Scuderia, bah, tout le monde en parle.
Imagine, on t'aurait dit en début de saison, peut-être que Ferrari ne fera pas une seule victoire.
Ouais, mais moi, tu vois...
2023, c'est Singapour. Ouais. Alors, je dis ça, je dis rien.
Le discours...
Mais sinon, c'est 2021, la dernière année, sans victoire. Tu dis au moins une fois... Ouais.
Tu vois, en tant que supporter de Ferrari, parce que c'est vrai que je suis pas non plus, j'ai pas un t-shirt rouge tous les jours, mais t'aimes qui alors ?
T'aimes pas Verstappen, t'aimes pas Ferrari. Vous êtes une énigme, Monsieur Gerbier.
J'aime personne.
Il aime celui qui gagne. Il a raison.
Il aime Hülkenberg.
Non, mais c'est vrai que tu vois, si tu me demandes un de mes pilotes préférés, c'est Valtteri Bottas. Donc je suis pas forcément
Valtteri
dans la
Bottas.
Norme.
Ah oui. Tu le fais avec l'accent Valtteri Bottas.
Et tu vas copier son look alors bientôt.
Voilà. Non. Non, je préférais avoir son vélo en revanche, parce que là, il a un super vélo, mais c'est pas le sujet. Mais ouais, du coup, j'ai complètement zappé à force de dire des enneries.
On était sur Ferrari, bon, l'environnement.
Mais c'est pas un environnement où tu peux te permettre ça. Et donc, moi, j'aurais été le premier en ce début de saison si on m'avait vendu un truc. Bon, c'est la fin de saison, il y a Hamilton, mais bon, on va peut-être faire zéro victoire et à l'année prochaine, c'est pas possible, ouais. Vous êtes Ferrari. Ouais. Donc, ils sont un peu coincés là-dedans et faut gérer ça.
Je suis d'accord, mais du coup, c'est vrai que les effet d'annonce comme ça, ça peut vraiment ruiner un petit peu ta
saison. Et c'est marrant, à contrario, tu prends Mercedes qui a perdu Hamilton. Avant Mercedes, tu pouvais pas non plus viser petit. T'es Mercedes, t'es cette écurie qui a dominé.
C'est vrai qu'eux, maintenant, on en attend moins.
Et eux, t'as enlevé Hamilton ce pilote septuple champion du monde, bah, du coup, tu peux un peu plus reconstruire aussi. Alors, ça ne t'empêche pas les dramas. Russell, est-ce qu'on te prolonge, etc.
Ouais.
Blabla.
Ouais,
ça, c'est honteux, on pourra en dire un mot quand même.
Bah, alors, justement, j'allais y venir sur George Russell. On va en parler de Mercedes parce que c'est quand même le 7e podium de Russell cette saison. Dans ces 7 podiums, il y a une victoire au Canada. Il y a un pilote qui a toujours pas prolongé. On va l'écouter. Est-ce qu'il est où, George Russell?
Il est là.
On va l'écouter au micro de Canal.
Yeah, to be honest, I'm surprised to be in
P2. Je suis surpris d'être deuxième.
You know, we didn't do anything special. We just didn't make mistakes.
You
look at yesterday.
On a juste pas fait d'erreur.
Ferrari's looked amazingly strong and
hier,
they qualified
Ferrari,
at the
semblait extrêmement rapide et solide. Et ils ont sous-performé.
So
McLaren semblait solide, ils sont qualifiés derrière nous.
We just kept
Donc finalement, on est resté très propre.
Had an amazing race and glad to be P2.
Carlos a fait une course incroyable et franchement, je suis content d'être deuxième. En plus, il était malade, hein, on le disait tout à l'heure, George Russell, il était malade, vraiment, vraiment malade. C'est vrai que sur la trajectoire de l'écurie, ils font pas de bruit. Mercedes, Jean-Luc, on n'en parle pas beaucoup, même nous, dans les podcasts. Il est toujours pas prolongé, en plus, l'ami George, alors qu'il fait quand même une superbe saison. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un gros devant qui sous-performe, bah, George Russell, il est là pour mettre le museau de la Mercedes sur un podium, quoi.
Bah, écoute, il est solide, hein, c'est le mot qui convient. D'ailleurs, il est quatrième au championnat avec 212 points, comme tu l'as dit. Il a remporté une victoire, lui, ils sont pas si nombreux. Donc, moi, je trouve scandaleux qu'il ne soit pas reconduit. Alors, on sait que, on dit, oh, c'est des petites divergences. Ça, c'est le discours en bois de Toto Wolff. Mais c'est totalement faux. Ils sont pas d'accord ni sur le salaire, ni sur la durée de la prolongation, ni sur les charges de représentation, etc., avec les sponsors. Ça fait quand même beaucoup, hein. Et on est quand même à 7 grands prix de la fin de la saison. Et on a quand même un type qui il tient la baraque quasiment à lui tout seul. Même si Antonelli a fait un beau grand prix, là, il faut le souligner. Mais enfin, par parenthèse, il ne fait pas de cadeau non plus à Russell. Vous avez vu dans le T1, hein, à un moment, comment il le sort,
c'est quand
même son équipier. Ça passe à deux doigts qu'il le mette carrément dans le mur. Hein. Bon, ok, on sait qu'il est motivé. Je vais pas. Puis j'aime bien ce jeune gars aussi qui mérite qu'on lui laisse sa chance. Mais la politique menée par Toto Wolff, là aussi, je ne comprends pas.
Tu cries au
sincèrement
loup.
Je sais, il veut Verstappen. C'est ça, les loups à bois avec les loups. c'est un effet de meute, tu vas me dire. Mais allons-y. Non, mais je trouve scandaleux qu'il n'ait pas été prolongé pour deux saisons. C'est-à-dire, je sais, il espère que Verstappen sera déçu par les performances de la Red Bull à la fin 2026 et qu'il va le récupérer pour 2027. C'est tellement gros comme une maison qu'un enfant de 8 ans a parfaitement compris. Bon, ça, c'est pas de la
Jean-Luc,
stratégie.
Il est à la fois prisonnier du marché, en fait, George Russell. Parce que Toto Wolff, il a le beau rôle de dire bah écoute, soit c'est ça, soit tu vas aller où, Coco? Il peut aller nulle part, en fait.
Oui,
c'est ça
aussi le problème. Oui, mais c'est cynique. C'est totalement cynique.
Ah oui, mais c'est du business, hein, c'est aussi ça, quoi. Enfin, c'est...
Jean-Luc, je te propose, Jean-Luc, on a Toto avec nous. Toto, il prolonge George Russell ou pas?
Oui, on est sur quelques détails, mais avec Georges, voilà, on travaille bien depuis quelques années. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Voilà, c'est juste histoire de finaliser quelques détails. Mais Georges est là. On a aussi Kimi qui est là, qui s'est repris sur Bakou. Donc voilà, l'avenir, il sera là pour nous avec 2026. On est déjà tourné vers cette nouvelle réglementation.
Merci Toto Valadon, je suis désolé.
Hein. J'y étais.
Alors pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas Toto Wolff.
Oui, il faut le préciser.
Ce ne sont pas de vraies informations, c'est Arnaud Wolff. Voilà. Le chapitre sur George Russell qui est une nouvelle fois ultra performant. Et ça, c'est quand même dingue, cette McLaren qui, à chaque fois qu'il fait un peu frais, arrive à parfait.
Mercedes, pardon,
excusez-moi pour le lapsus. Ça, c'est quand même fou. On termine ce podcast, les gars, en parlant quand même du Frenchie, Isaac Hadjar. On va pas trop parler d'Esteban Ocon et Pierre Gasly parce que ça a été la galère pour les deux ce week-end.
Esteban, il avait fait deux pit stops, les autres n'avaient pas commencé à rouler.
Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. T1, T2, il s'arrête. Ouais, paf.
Isaac Hadjar, Arnaud, qu'on a vu furieux en qualif en Q3 parce qu'il a a pris une belle opportunité et qu'on a revu furieux en course après sa 10e place.
Oui, il prend le vibreur sur le dernier virage avant la longue ligne droite et ça lui fait perdre, je crois que lui avait même dit presque 8 dixièmes, je crois. Enfin, c'est assez incroyable pour Isaac Hadjar. Après, il apprend. On a parlé du vent, et notamment dans ce troisième secteur. Écoute, voilà, je ne faut pas non plus lui en tirer rigueur. C'est vrai qu'il avait un bon rythme. Moi, je trouve que c'est un chouïa faussé parce qu'en fait, il y avait le train Lawson devant, ce qui fait qu'Isaac, il a pu grappiller du temps un peu sur tout le monde, revenir sur ce petit train où son coéquipier retenait un petit peu tout le monde, hein, que ce soit Charles Leclerc, que ce soit Norris. Voilà, c'est une course, au moins il avait la vitesse. Après, c'est le circuit, les circonstances qui ont fait que et la petite erreur où oui, il aurait pu peut-être un peu viser mieux, mais bon, écoute, il rentre quand même dans les points.
Troisième week-end consécutif.
Je pense que ce qui l'énerve,
hein,
c'est de voir Lawson aussi haut.
Bah oui,
ça qui l'agace.
Et voilà, c'est surtout ça. Ouais.
Ça, c'est une certitude. On l'écoute, Isaac Hadjar, au micro de Canal.
On fait une bonne course, c'est juste. Je suis un peu fâché parce que je fais une erreur. Je fais la même erreur qu'hier dans le premier relais, donc je perds deux positions. Et après, ça me met un peu dans une mauvaise spirale et j'abîme les pneus. Et ouais, sur les médiums, on n'était pas très rapide. Mais par contre, après, quand on boxe sur les hards, on est très très fort et on revient fort sur le groupe, mais ça sert à rien.
Voilà Isaac Hadjar qui a fait un week-end correct, mais qui est battu par son coéquipier. Il faut le dire aussi quand M. Lawson fait de belles perfs. Ben voilà les gars, et on a fait plus d'une heure sur ce débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il y avait plein de choses à dire. Et encore, on ne s'est ça pas mérite, éternisé oui. Sur Alpine. Bon, il y avait plein de choses à dire encore, mais bon.
C'est qui c'est Alpine vrai. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette affaire?
Ils sont pas tout seuls, hein, parce non, que Aston, on n'a pas parlé non oui. plus, et Sauber non
mais
plus.
Mais on sent quand même qu'on arrive tranquillement sur une fin de réglementation et que là, on a quand même vraiment pas mal laissé de côté 2025 et que maintenant, pour ceux qui n'ont plus grand-chose à jouer à part le championnat, va falloir tranquillement patienter jusqu'à mars. Hein.
C'est clair. Petit coup de cœur quand même pour Yuki Tsunoda, on n'en a pas parlé aussi.
Ah,
Yuki,
oui,
enfin,
ouais.
On en a parlé, ah, mais... Il fait le boulot sur ce week-end, ça fait plaisir de voir un
peu. Son meilleur résultat de la saison. Hein.
Ouais, meilleure perf de la saison et on le revoit avec le sourire, rigoler avec Verstappen. Alors même s'il est condamné quand même, lui aussi ça avance et ça fait plaisir.
Attends, hey. Tu sais, ils ont ouais. dit tous les deux, hein,
c'est vrai.
Laurent Beckes aussi et Helmut Marko qu'ils allaient attendre. Ils ont raison, ils les ont tous sous contrat. Attendez, si Tsunoda continue à performer comme ça, on en reparlera.
Et moi, je trouverais que ça serait presque un service à rendre à Isaac de le laisser une deuxième année chez Racing Bulls. Paradoxalement.
Il faut qu'il apprenne. Il a encore plein de choses à apprendre.
Ouais. Ouais. Après, c'est, ouais,
après, c'est juste sur le côté. C'est la nouvelle réglementation.
Bah ouais, c'est ça.
Bon,
c'est la première année.
Pour attraper
bah oui, exactement.
Le train en marche.
Exactement. Exactement. Mais vrai débat qu'on refera d'ici la fin de saison, c'est une certitude. Les gars, on se retrouve pour Singapour. C'est dans 15 jours. Attention! Peut-être un petit podcast exceptionnel avec un invité, un guest qui bosse dans le monde de la Formule 1, qui va bosser dans une écurie de Formule 1 l'année prochaine. Je vous fais un petit teasing. Voilà, on va essayer de vous mettre ça en boîte. Voilà. Ben oui, on est comme ça. On vous avait dit qu'on allait essayer d'avoir des invités, de faire un petit peu des podcasts hors format, des interviews. Ça peut tomber. Donc restez connectés pour avoir les notifs. C'est simple. Vous vous abonnez au podcast et comme ça, s'il y a le hors format, la petite interview dont je vous parle qui tombe, vous êtes déjà au courant. Voilà, les applis vous renseignent d'elles-mêmes. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Merci les amis, on se retrouve à Singapour où il fera donc chaud et humide. Bye bye.
Salut.
Le paddock RMC.